Chapitre 10. Pendant 8 jours, l'héritière fut, avec ses 3 prétendus, ce qu'elle avait été durant cette soirée, en sorte que le poète parut l'emporter sur ses rivaux, malgré les boutades et les fantaisies qui donnaient de temps en temps de l'espoir au duc d'Hérouville. Les irrévérences de Modeste envers son père, les libertés excessives qu'elle prenait avec lui, ses impatiences avec sa mère aveugle en lui rendant comme un regret ses petits services qui naguère étaient le triomphe de sa piété filiale, semblaient être l'effet d'un caractère fantasque et d'une gaieté tolérée dès l'enfance. Quand Modeste allait trop loin, elle se faisait de la morale à elle-même et attribuait ses légèretés et ses incardades à son esprit d'indépendance. Elle avouait au duc et à Canalis son peu de goût pour l'obéissance et le regardait comme un obstacle réel à son établissement, en interrogeant ainsi le moral de ses prétendus à la manière de ceux qui trouvent la terre pour en ramener de l'or, du charbon, du tuf ou de l'eau. « Je ne trouverai jamais, disait-elle la veille du jour où l'installation de la famille à la villa devait avoir lieu, de mari qui supportera mes caprices avec la bonté de mon père qui ne s'est jamais démenti et avec l'indulgence de mon adorable mère. « Mais ils se savent aimer, mademoiselle, dit la Bruyère. « Mais soyez sûre, mademoiselle, que votre mari connaîtra toute la valeur de son trésor, ajouta le duc. « Vous avez plus d'esprit et de résolution qu'il n'en faut pour discipliner un mari, dit Canalis en riant. Modeste sourit comme Henri IV dut sourire après avoir révélé, par 3 réponses à une question insidieuse, le caractère de ses 3 principaux ministres à un ambassadeur étranger. Le jour du dîner, Modeste, entraînée par la préférence qu'elle accordait à Canalis, se promena longtemps seule avec lui sur le terrain sablé qui se trouvait entre la maison et le boulingrin orné de fleurs. Au geste du poète, à l'air de la jeune héritière, il était facile de voir qu'elle écoutait favorablement Canalis. Aussi les 2 demoiselles d'Hérouville vinrent-elles interrompre ce scandaleux tête-à-tête, et avec l'adresse naturelle aux femmes en semblable occurrence, elles mirent la conversation sur la cour, sur l'éclat d'une charge de la couronne, en expliquant la différence qui existait entre les charges de la maison du roi et celles de la couronne. Elles tâchèrent de griser Modeste en s'adressant à son orgueil et lui montrant une des plus hautes destinées à laquelle une femme pouvait alors aspirer. « Avoir pour fils un duc, s'écria la vieille demoiselle, est un avantage positif. Ce titre est une fortune hors de toute atteinte qu'on donne à ses enfants. « À quel hasard, dit Canalis, assez mécontent d'avoir vu son entretien rompu, devons-nous attribuer le peu de succès que monsieur le grand écuyer a eu jusqu'à présent dans l'affaire où ce titre peut le plus servir les prétentions d'un homme ?» Les 2 demoiselles jetèrent à Canalis un regard chargé d'autant de venin qu'en insinue la morsure d'une vipère et furent si décontenancées par le sourire railleur de Modeste qu'elles se trouvèrent sans un mot de réponse. « Monsieur le grand écuyer, dit Modeste à Canalis, ne vous a jamais reproché l'humilité qui vous inspire votre gloire, et pourquoi lui en vouloir de sa modestie ? Il ne s'est d'ailleurs pas encore rencontré, dit la vieille demoiselle, une femme digne du rang de mon neveu. Nous en avons vu qui n'avait que la fortune de cette position, d'autres qui, sans la fortune, en avaient tout l'esprit, et j'avoue que nous avons bien fait d'attendre que Dieu nous offrit l'occasion de connaître une personne en qui se rencontrent la noblesse de l'esprit et la fortune d'une duchesse d'Hérouville. « Il y a, ma chère Modeste, dit Hélène d'Hérouville en emmenant sa nouvelle amie à quelques pas de là, 1000 barreaux de Canalis dans le royaume, comme il y en a 100 poètes à Paris qui le valent. Et il est si peu grand homme que moi, pauvre fille destinée à prendre le voile, faute d'une dot, je ne voudrais pas de lui. Vous savez d'ailleurs pas ce que c'est qu'un jeune homme exploité depuis 10 ans par la duchesse de Chaulieu. Il n'y a vraiment qu'une vieille femme de 60 ans, bientôt, qui puisse se soumettre aux petites indispositions dont est, dit-on, affligé le grand poète, et dont la moindre fut, chez Louis XV, un défaut insupportable, mais La duchesse n'en souffre pas autant, il est vrai, qu'en souffrirait une femme, et ne l'a pas toujours chez elle comme un mari. Et pratiquant l'une des manœuvres particulières aux femmes entre elles, Hélène d'Hérouville répéta d'oreille à oreille les calomnies que les femmes jalouses de Madame de Chaulieu colportaient sur le poète. Ce petit détail, assez commun dans les conversations des jeunes personnes, montre avec quel acharnement se disputait déjà la fortune du comte de la Bastie. En 10 jours, les opinions du chalet avaient beaucoup varié sur les 3 personnages qui prétendaient à la main de Modeste. Ce changement, tout au désavantage de Canalis, se basait sur des considérations de nature à faire profondément réfléchir les porteurs d'une gloire quelconque. On ne peut nier à voir la passion avec laquelle on poursuit une autographe que la curiosité publique ne soit vivement excitée par la célébrité. La plupart des gens de province ne se rendent évidemment pas à un compte exact des procédés que les gens illustres emploient pour mettre leur cravate, marcher sur le boulevard, bâiller aux corneilles ou manger une côtelette. Car lorsqu'ils aperçoivent un homme vêtu des rayons de la mode ou resplendissant d'une faveur plus ou moins passagère, mais toujours envié, les uns disent « Bon, c'est ça ?» ou bien « C'est drôle !» et autres exclamations bizarres. En un mot, le charme étrange que cause toute espèce de gloire, même justement acquise, ne subsiste pas. C'est surtout pour les gens superficiels, moqueurs ou envieux, une sensation rapide comme l'éclair et qui ne se renouvelle point. Il semble que la gloire, de même que le soleil, chaude et lumineuse à distance, est, si l'on s'en approche, froide comme la sommité d'un Alpe. Peut-être l'homme n'est-il réellement grand que pour ses pairs. Peut-être les défauts inhérents à la condition humaine disparaissent-ils plutôt à leurs yeux que ceux des vulgaires admirateurs. Pour plaire tous les jours, un poète serait donc tenu de déployer les grâces mensongères des gens qui savent se faire pardonner leur obscurité par leurs façons aimables et par leurs complaisants discours. Car, outre le génie, chacun lui demande les plates vertus de salon et le berquinisme de famille. Le grand poète du faubourg Saint-Germain, qui ne voulut pas se plier à cette loi sociale, vit succéder une insultante indifférence à l'éblouissement causé par sa conversation des premières soirées. L'esprit prodigué sans mesure produit sur l'âme l'effet d'une boutique de cristaux sur les yeux, et c'est assez dire que le brillant de Canalis fatigua promptement des gens qui, selon leurs mots, aimaient le solide. Tenu bientôt de se montrer homme ordinaire, le poète rencontra de nombreux écueils sur un terrain où la Bruyère conquit les suffrages de ceux qui d'abord l'avaient trouvé maussade. On éprouva le besoin de se venger de la réputation de Canalis en lui préférant son ami. Les meilleures personnes sont ainsi faites. Le simple et bon référendaire n'offensait aucun amour-propre. En revenant à lui, chacun lui découvrit du cœur une grande modestie, une discrétion de coffre-fort et une excellente tenue. Le duc d'Hérouville mit comme valeur politique Ernest beaucoup au-dessus de Canalis. Le poète, inégal, ambitieux et mobile comme le Tasse, aimait le luxe, la grandeur, il faisait des dettes. Tandis que le jeune conseiller, d'un caractère égal, vivait sagement, utile sans fracas, attendant les récompenses sans les guetter, et faisait des économies. Canalis avait d'ailleurs donné raison aux bourgeois qu'il observait. Depuis 2 ou 3 jours, il se laissait aller à des mouvements d'impatience, à des abattements, à ces mélancolies sans raison apparente, à ces changements d'humeur, fruits du tempérament nerveux des poètes. Ces originalités, le mot de la province, engendrées par l'inquiétude que lui causaient ses torts, grossis de jour en jour envers la duchesse de Chaulieu, à laquelle il devait écrire sans pouvoir s'y résoudre, furent soigneusement remarqués par la douce américaine, par la digne Madame Latournelle, et devinrent le sujet de plus d'une causerie entre elle et Madame Mignon. Canalis ressentit les effets de ces causeries sans se les expliquer. L'attention ne fut plus la même, les visages ne lui offrirent plus cet air ravi des premiers jours. Tandis qu'Ernest commençait à se faire écouter. Depuis 2 jours, le poète essayait donc de séduire Modeste et profitait de tous les instants où il pouvait se trouver seul avec elle pour l'envelopper dans les filets d'un langage passionné. Le coloris de Modeste avait appris aux 2 jeunes filles avec quel plaisir l'héritière écoutait de délicieux colchetti délicieusement dit. Et inquiète d'un tel progrès, elle venait de recourir à l'ultima ratio des femmes en pareil cas, à ces calomnies qui manquent rarement leur effet en s'adressant aux répugnances physiques les plus violentes. Aussi, en se mettant à table, le poète aperçut-il des nuages sur le front de son idole. Il y lut les perfidies de Mademoiselle d'Hérouville et jugea nécessaire de se proposer lui-même pour mari dès qu'il pourrait parler à Modeste. En entendant quelques propos aigre-doux, quoique polis, échangés entre Canalis et les 2 nobles filles, Gobenheim poussa le coude à Butcha, son voisin, pour lui montrer le poète et le grand écuyer. « Ils se démoliront l'un par l'autre, » lui dit-il à l'oreille. « Oh, Canalis a bien assez de génie pour se démolir à lui tout seul, » répondit le nain. Pendant le dîner, qui fut d'une excessive magnificence et admirablement bien servi, le duc remporta sur Canalis un grand avantage. Modeste, qui la veille avait reçu ses habits de cheval, parla de promenade à faire aux environs. Par le tour que prit la conversation, elle fut amenée à manifester le désir de voir une chasse à cour, plaisir qui lui était inconnu. Aussitôt, le duc proposa de donner à Mademoiselle Mignon le spectacle d'une chasse dans une forêt de la Couronne, à quelques lieues du Havre. Grâce à ses relations avec le prince de Cadignan, grand veneur, il entrevit les moyens de déployer aux yeux de Modeste un faste royal, de la séduire en lui montrant le monde fascinant de la cour et lui faisant souhaiter de s'y introduire par un mariage. Des coups d'œil échangés entre le duc et les 2 demoiselles d'Hérouville, que surpris Canalis, disaient assez « À nous l'héritière !» pour que le poète, réduit à ses splendeurs personnelles, se hâta d'obtenir un gage d'affection. Presque effrayé de s'être avancé au-delà de ses intentions avec les d'Hérouville, Modeste, en se promenant après le dîner dans le parc, affecta d'aller un peu en avant de la compagnie avec Melchior. Par une curiosité de jeune fille assez légitime, elle laissa deviner les calomnies dites par Hélène. Et sur une exclamation de Canalis, elle lui demanda le secret qu'il promit. « Cette coup de langue, dit-il, sont de bonne guerre dans le grand monde. Votre probité s'en effarouche et moi j'en ris, j'en suis même heureux. Ces demoiselles doivent croire les intérêts de sa seigneurie bien en danger pour y avoir recours. » Et profitant de l'avantage que donne une communication de ce genre, Canalis mit à sa justification une telle verve de plaisanterie, une passion si spirituellement exprimée, en remerciant Modeste d'une confidence où il se dépêchait de voir un peu d'amour, qu'elle se vit tout aussi compromise avec le poète qu'avec le grand écuyer. Canalis, sentant la nécessité d'être hardi, se déclara nettement. Il fit à Modeste des serments où sa poésie rayonna comme la lune ingénieusement invoquée, où brilla la description de la beauté de cette charmante blonde admirablement habillée pour cette fête de famille. Cette exaltation de commande, à laquelle le soir, le feuillage, le ciel et la terre, la nature entière servirent de complices, entraîna cet avide amant au-delà de toutes les raisons, car il parla de son désintéressement et sut rajeunir par les grâces de son style le fameux thème « 1500 francs et ma Sophie » de Diderot, ou « Une chaumière et ton cœur » de tous les amants qui connaissent bien la fortune d'un beau-père. « Monsieur, » dit Modeste, après avoir savouré la mélodie de ce concerto si admirablement exécuté sur un thème connu, « la liberté que me laissent mes parents m'a permis de vous entendre, mais c'est eux que vous devriez vous adresser. » « Eh bien, » s'écria Canalis, « dites-moi que si j'obtiens leur aveu, vous ne demanderez pas mieux que de leur obéir. » « Je sais d'avance, » répondit-elle, « que mon père a des fantaisies qui peuvent contrarier le juste orgueil d'une vieille maison comme la vôtre, car il désire voir porter son titre et son nom par ses petits-fils. »« Eh, cher Modeste, quel sacrifice ne ferait-on pas pour confier sa vie à un ange gardien tel que vous ?»« Vous me permettrez de ne pas décider en un instant du sort de toute ma vie, » dit-elle, en rejoignant les demoiselles d'Hérouville. En ce moment, ces deux nobles filles caressaient les vanités du petit Latournelle afin de le mettre dans leurs intérêts. Mademoiselle d'Hérouville, à qui, pour la distinguer de sa nièce Hélène, il faut donner exclusivement le nom patrimonial, donnait à entendre au notaire que la place de président du tribunal au Havre, dont disposerait Charles X en leur faveur, était une retraite due à son talent de légiste et à sa probité. Boucha, qui se promenait avec la Bruyère et qui s'effrayait des progrès de l'audacieux Melchior, trouva moyen de causer pendant quelques minutes au bas du perron avec Modeste au moment où l'on rentra pour se livrer au taquinage de l'inévitable whist. « Mademoiselle, j'espère que vous ne lui dites pas encore Melchior, » lui demanda-t-il à voix basse. « Un peu s'en faut, mon âme mystérieux, » répondit-elle, en souriant à faire damner un ange. « Grand Dieu !» s'écria le clerc en laissant tomber ses mains qui frôlèrent les marches. « Eh bien, ne vaut-il pas ce haineux et sombre référendaire à qui vous vous intéressez ?» reprit-elle en prenant pour Ernest un de ces airs hautains dont le secret n'appartient qu'aux jeunes filles, comme si la virginité leur prêtait des ailes pour s'envoler si haut. « Est-ce votre petit monsieur de la Bruyère qui m'accepterait sans dot ?» dit-elle après une pause. « Mais demandez à monsieur votre père, » répliqua Boucha, qui fit quelques pas pour emmener Modeste à une distance respectable des fenêtres. « Écoutez-moi, mademoiselle, vous savez que celui qui vous parle est prêt à vous donner non seulement sa vie, mais encore son honneur, en tout temps, à tout moment. » Ainsi, vous pouvez croire en lui, vous pouvez lui confier ce que peut-être vous ne diriez pas à votre père. Eh bien, ce sublime Canalis, vous a-t-il tenu le langage désintéressé et qui vous fait jeter ce reproche à la face du pauvre Ernest ? Oui. Y croyez-vous ? Mais ceci, beau clerc, reprit-elle en lui donnant un des 10 ou 12 surnoms qu'elle lui avait trouvés, m'a l'air de mettre en doute la puissance de mon amour-propre. Vous riez, chère demoiselle, si rien n'est sérieux, et j'espère avoir que vous vous moquez de lui. Mais que penseriez-vous de moi, monsieur Boucha, si je me croyais le droit de railler quelqu'un de ceux qui me font l'honneur de me vouloir pour femme? Sachez, maître Jean, que même en ayant l'air de mépriser le plus méprisable des hommages, une fille est toujours flattée de l'obtenir. Ainsi je vous flatte, dit le clerc en montrant sa figure illuminée comme l'est une ville pour une fête. Vous, dit-elle, vous me témoignez la plus précieuse de toutes les amitiés, un sentiment désintéressé comme celui d'une mère pour sa fille. Oh, ne vous comparez à personne, car mon père lui-même est obligé de se dévouer à moi. Elle fit une pause. Je ne puis pas dire que je vous aime dans le sens que les hommes donnent à ce mot, mais ce que je vous accorde est éternel et ne connaîtra jamais de vicissitude. Eh bien, dit Boucha, qui feignit de ramasser un caillou pour baiser le bout des souliers de Modeste en y laissant une larme. Permettez-moi donc de veiller sur vous, comme un dragon veille sur un trésor. Le poète vous a déployé tout à l'heure la dentelle de ses précieuses phrases, le clinquant des promesses. Il a chanté son amour sur la plus belle corde de sa lyre, n'est-ce pas? Bien, si dès que ce noble amant aura la certitude de votre peu de fortune, vous le voyez changeant de conduite, embarrassé, froid, ferez-vous encore votre mari? Lui donnerez-vous toujours votre estime? Ben, ce serait un Francisque Altor, demanda-t-elle avec un geste où se peignit un amer dégoût. Laissez-moi le plaisir de produire ce changement de décoration, dit Butcha. Non seulement je veux que ce soit subi, mais après je ne désespère pas de vous rendre votre poète amoureux de nouveau et de lui faire souffler alternativement le froid et le chaud sur votre cœur aussi gracieusement qu'il soutient le pour et le contre dans la même soirée sans quelquefois s'en apercevoir. Mais si vous avez raison, dit-elle, à qui se fier? Et à celui qui vous aime véritablement, au petit duc. Butcha regarda Modeste. Tous deux, ils firent quelques pas en silence. La jeune fille fut impénétrable et ne sourcilla pas. Mademoiselle, me permettez-vous d'être le traducteur des pensées tapies au fond de votre cœur, comme des mousses marines sous les eaux, et que vous ne voulez pas vous expliquer? Et quoi, dit Modeste, mon conseiller intime privé actuel serait encore un miroir? « Non, mais un écho !» répondit-il en accompagnant ce mot d'un geste empreint d'une sublime modestie. « Le duc vous aime, et il vous aime trop. Si j'ai bien compris, moi, nain, l'infime délicatesse de votre cœur, il vous répugnerait d'être adoré comme un saint sacrement dans son tabernacle. Mais comme vous êtes évidemment femme, vous ne voulez pas plus voir un homme sans cesse à vos pieds et de qui vous seriez éternellement sûr que vous voudriez d'un égoïste comme Canalis, qui se préférerait à vous. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je me ferai femme et vieille femme pour savoir la raison de ce programme que j'ai lu dans vos yeux, et qui peut-être est celui de toutes les filles. Néanmoins, vous avez dans votre grande âme un besoin d'adoration. Quand un homme est à vos genoux, vous ne pouvez pas vous mettre au sien. « On ne va pas loin ainsi, » disait Voltaire. « Le petit duc a donc trop de géniflexion dans le moral, et Canalis pas assez, pour ne pas dire point du tout. Aussi devinais-je la malice cachée de vos sourires quand vous vous adressez au grand écuyer, et quand il vous parle et quand vous lui répondez. Vous ne pouvez jamais être malheureuse avec le duc. » Tout le monde vous approuvera si vous le choisissez pour mari, mais vous ne l'aimez point. Le froid de l'égoïsme et la chaleur excessive d'une extase continuelle produisent sans doute dans le cœur de toutes les femmes une négation. Évidemment, ce n'est pas ce triomphe perpétuel qui vous prodiguera les délices infinies du mariage que vous rêvez, où il se rencontre des obéissances qui rendent fiers, où l'on fait de grands petits sacrifices cachés avec bonheur, où l'on ressent des inquiétudes sans cause, où l'on attend avec ivresse des succès, où l'on plie avec joie devant des grandeurs imprévues, où l'on est compris jusque dans ses secrets, où parfois une âme protège de son amour son protecteur. Mais vous êtes sorcier, dit Modeste. Vous ne trouvez pas non plus cette douce égalité de sentiments, ce partage continu de la vie et cette certitude de plaire qui fait accepter le mariage en épousant un Canalis, un homme qui ne pense qu'à lui, dont le moi est la note unique, dont l'attention ne s'est pas encore abaissée jusqu'à se prêter à votre père ou au grand écuyer, un ambitieux du second ordre, à qui votre dignité et votre obéissance importent peu, qui fera de vous une chose nécessaire dans sa maison et qui vous insulte déjà par son indifférence en fait d'honneur. Oui, vous permettriez de souffleter votre mère, et Canalis fermerait les yeux pour pouvoir se nier votre crime à lui-même, tant il a soif de votre fortune. Ainsi, mademoiselle, je ne pensais ni au grand poète qui n'est qu'un petit comédien, ni à sa seigneurie qui ne serait pour vous qu'un beau mariage et non pas un mari. Butcha, mon cœur, est un livre blanc, vous vous gravez vous-même ce que vous y lisez, répondit Modeste. Vous êtes entraîné par votre haine de province contre tout ce qui vous force à regarder plus haut que la tête. Vous ne pardonnez pas au poète d'être un homme politique, de posséder une belle parole, d'avoir un immense avenir, et vous calomniez ses intentions. Lui, mademoiselle, mais il vous tournera le dos au jour au lendemain avec la lâcheté d'un vilquin. Oh, faites-lui jouer cette scène de comédie et... Mais sur tous les taux, dans 3 jours, mercredi, souvenez-vous-en. Jusque-là, mademoiselle, amusez-vous à entendre tous les airs de cette sérinette, afin que les ignobles dissonances de la contrepartie en ressortent mieux. Modeste rentra gaiement au salon, où, seul de tous les hommes, La Bruyère, assis dans l'embrasure d'une fenêtre d'où sans doute il avait contemplé son idole, se leva comme si quelque huissier eût crié « La reine !» Ce fut un mouvement respectueux, plein de cette vive éloquence particulière aux gestes et qui surpasse celle des plus beaux discours. L'amour parlé ne vaut pas l'amour prouvé. Toutes les jeunes filles de 20 ans en sont 50 pour pratiquer cet axiome. Là est le grand argument des éducteurs. Au lieu de regarder Modeste en face, comme le fit Canalis qui la salua par un hommage public, l'amant dédaigné l'a suivi d'un long regard en dessous, semblable à la façon de Butcha, presque craintif. La jeune héritière remarqua cette contenance en allant se placer auprès de Canalis, au jeu de qui elle parut s'associer. Durant la conversation, La Bruyère apprit par un mot de Modeste à son père qu'elle reprendrait mercredi l'exercice du cheval. Elle lui faisait observer qu'il lui manquait une cravache en harmonie avec la somptuosité de ses habits d'écuyère. Le référendaire lança sur le nain un regard qui pétilla comme un incendie, et quelques instants après, ils piétinaient tous deux sur la terrasse. « Il est 9 heures, » dit Ernest à Butcha. « Je pars pour Paris, à Franck-Ritrier, et je puis être demain matin à 10 heures. Mon cher Butcha, de vous, elle acceptera bien un souvenir, car elle a de l'amitié pour vous. Laissez-moi lui donner, sous votre nom, une cravache. Et sachez que, pour prix de cette immense complaisance, vous aurez en moi non pas un ami, mais un dévouement. » « Allez, vous êtes bien heureux, » dit le clerc. « Vous avez de l'argent, vous. »« Prévenez Cabalis de ma part que je ne rentrerai pas et qu'il invente un prétexte pour justifier une absence de 2 jours. » 1 heure après, Ernest, parti en courrier, arriva en 12 heures à Paris, où son premier soin fut de retenir une place à la malle-poste du Havre pour le lendemain. Puis il alla chez les 3 plus célèbres bijoutiers de Paris, comparant les pommes de cravache et cherchant ce que l'art pouvait offrir de plus royalement beau. Il trouva, faite pour une Russe qui n'avait pas pu le payer après l'avoir commandé, une chasse au renard sculptée dans l'or et terminée par un rubis d'un prix exorbitant pour les appointements d'un référendaire. Alors, toutes ses économies y passèrent. Il s'agissait de 7 000 francs. Ernest donna le dessin des armes de la Bastille et 20 heures après, pour les exécuter à la place de celles qui s'y trouvaient. Cette chasse, un chef-d'œuvre de délicatesse, fut ajustée à une cravache en caoutchouc et mise dans un étui de maroquin rouge doublé de velours sur lequel on grava 2 M entrelacés. Le mercredi matin, La Bruyère était arrivée par la malle et à temps pour déjeuner avec Canalis. Le poète avait caché l'absence de son secrétaire en le disant occupé d'un travail envoyé de Paris. Butcha, qui se trouvait à la poste pour tendre la main au référendaire à l'arrivée de la malle, courut porter à Françoise Cochet cette œuvre d'art en lui recommandant de la placer sur la toilette de Modeste. Vous accompagnerez sans doute mademoiselle Modeste à sa promenade, dit Leclerc, qui revint chez Canalis pour annoncer par une œillade à la Bruyère que la cravache était heureusement parvenue à sa destination. « Moi, répondit Arnès, je vais me coucher. » « Ah bah !» s'écria Canalis en regardant son ami. « Je ne comprends plus !» On allait déjeuner, et naturellement le poète offrit au clerc de se mettre à table. Butcha restait avec l'intention de se faire éviter au besoin par la Bruyère, en voyant sur la physionomie de Germain le succès d'une malice de bossu que doit faire prévoir sa promesse à Modeste. Monsieur a bien raison de garder le clerc de Monsieur Latournelle, dit Germain à l'oreille de Canalis. Canalis et Germain allèrent dans le salon sur un clignement d'œil du domestique à son maître. Ce matin, monsieur, je suis allé voir pêcher une partie proposée avant-hier par un patron de barque de qui j'ai fait la connaissance. Germain n'avait pas à avoir eu le coup mauvais goût de jouer au billard dans un café du Havre où Butcha l'avait enveloppé d'amis pour agir à volonté sur lui. « Eh bien, dit Canalis, au fait, vivement. Ah, monsieur le baron, j'ai entendu sur monsieur Mignon une discussion à laquelle j'ai poussé de mon mieux. On ne savait pas à qui j'appartenais. Ah, monsieur le baron, le bruit du port est que vous donnez dans le panneau. La fortune de mademoiselle de la Bastille est, comme son nom, très modeste. Le vaisseau sur lequel le père est venu n'est pas à lui, mais à des marchands de la Chine avec lesquels il devra loyalement compter. Et on débite à ce sujet des choses peu flatteuses pour l'honneur du colonel. Ayant entendu dire que vous et monsieur le duc, vous vous disputiez, mademoiselle de la Bastille, j'ai pris la liberté de vous prévenir, car de vous deux, il vaut mieux que ce soit sa seigneurie qui la gobe. Et alors, en revenant, j'ai fait un tour sur le port, devant la salle de spectacle où se promènent les négociants, parmi lesquels je me suis faufilé hardiment. Et ces braves gens, voyant un homme bien vêtu, se sont mis à causer du Havre, de fil en aiguille. Je les ai mis sur le compte du colonel Mignon, et ils se sont si bien trouvés d'accord avec les pêcheurs que je ne manquerai jamais de voir en me taisant. Et voilà pourquoi j'ai laissé monsieur s'habiller, se lever seul. « Mais que faire ? » s'écria Canalis en se trouvant engagé de manière à ne pouvoir plus revenir sur ses promesses à Modeste. « Bien, monsieur connaît mon attachement, » dit Germain en voyant le poète comme foudroyé. « Il ne se donnera pas de me voir lui donner un conseil. Si vous pouviez griser ce clerc, il dirait bien le fin mot là-dessus. Et s'il ne se déboutonne pas à la seconde bouteille de vin de champagne, ce sera toujours bien à la troisième. Il serait d'ailleurs singulier que monsieur, que nous verrons sans doute un jour ambassadeur, comme Philoxène l'a entendu dire à madame la duchesse, ne vint pas à bout d'un clerc du Havre. » En ce moment, Butcha, l'auteur inconnu de cette partie de pêche, invitait le référendaire à se taire sur le sujet de son voyage à Paris et à ne pas contrarier sa manœuvre à table. Le clerc avait tiré parti d'une réaction défavorable à Charles Mignon qui s'opérait au Havre. Voici pourquoi. Monsieur le comte de la Bastille laissait dans un complet oubli ses amis d'autrefois qui, pendant son absence, avaient oublié sa femme et ses enfants. En apprenant qu'il se donnait un grand dîner à la Villa Mignon, chacun se flatta d'être un des convives et s'attendit à recevoir une invitation. Mais quand on sut que Gobenheim, les Latournelle, le duc et les deux Parisiens étaient les seuls invités, il se fit une clameur de haros sur l'orgueil du négociant. Son affectation à ne voir personne, à ne pas descendre au Havre, fut alors remarquée et attribuée à un mépris dont se vengea le Havre en mettant en question cette soudaine fortune. En quelque temps, chacun sut bientôt que les fonds nécessaires à Roréméré de Vilquin avaient été fournis par Dumay. Cette circonstance permit aux plus acharnés de supposer calomnieusement que Charles était venu confier au dévouement absolu de Dumay des fonds pour lesquels il prévoyait des discussions avec ses prétendus associés de canton. Les demi-mots de Charles, dont l'intention fut toujours de cacher sa fortune, les dires de ces gens à qui le mot fut donné, prêtaient un air de vraisemblance à ces fables grossières, auxquelles chacun crut en obéissant à l'esprit de dénigrement qui anime les commerçants les uns contre les autres. Autant le patriotisme de Clocher avait vanté l'immense fortune d'un des deux fondateurs du Havre, autant la jalousie de province la diminua. Le clerc à qui les pêcheurs devaient plus d'un service leur demanda le secret et un coup de langue. Il fut bien servi. Le patron de la barque dit à Germain qu'un de ses cousins, un matelot, arrivait de Marseille, congédié par suite de la vente du brick sur lequel le colonel était revenu. Le brick se vendait pour le compte d'un nommé Castagnou et la cargaison, selon le cousin, valait tout au plus 300 000 francs. « Germain, dit Canalis au moment où le valet de chambre sortit, tu nous serviras du vin de Champagne et du vin de Bordeaux. Un membre de la basoge de Normandie doit remporter les souvenirs de l'hospitalité d'un poète. Et puis, il a de l'esprit autant que Figaro, dit Canalis en appuyant sa main sur l'épaule du nain. Il faut que cet esprit de petit journal jaillisse et mousse avec le vin de Champagne. » Nous ne nous épargnerons pas non plus, Ernest. Il y a bien, ma foi, 2 ans que je me suis grisé, reprit-il en regardant la Bruyère. Avec du vin, oh, cela se conçoit, répartit le clerc. Vous vous grisez tous les jours de vous-même, vous buvez à même en lait de louange. Ah, vous êtes beau, oui, vous êtes poète, vous êtes illustre de votre vivant, vous avez une conversation à la hauteur de votre génie et vous plaisez à toutes les femmes, même à ma patronne. Aimé de la plus belle sultane, validée que j'ai vue, oh, je n'ai encore vu que celle-là, vous pouvez, si vous le voulez, épouser mademoiselle de la Bastille. Tenez, rien qu'à faire l'inventaire du présent sans compter... Votre avenir, un beau titre, la pairie, l'ambassade. Me voilà sous, comme ces gens qui mettent en bouteille le vin d'autrui. Mais toutes ces magnificences sociales, reprit Canalis, ne sont rien sans ce qui les met en valeur, la fortune. Nous sommes ici entre hommes, les beaux sentiments sont charmants en stance. Oh, ces circonstances, dit le clerc en faisant un geste significatif. Mais vous, monsieur le faiseur de comptes, dit le poète en souriant de l'interruption, vous savez aussi bien que moi que chaumière rime avec misère. À table, Butcha se développa dans le rôle de Trigaudin de la maison en loterie, à effrayer Ernest, qui ne connaissait pas les charges d'études. Elles valent les charges d'atelier. Le clerc, comme raconta la chronique scandaleuse du Havre, l'histoire des fortunes, celle des alcôves et les crimes commis le code à la main, ce qu'on appelle en Normandie « se tirer d'affaire comme on peut ». Il n'épargna personne. Sa verve croissait avec le torrent de vin qui passait par son gosier comme un orage par une gouttière. « Sais-tu, la Bruyère, que ce brave garçon-là, dit Canis en versant du vin à Butcha, ferait un fameux secrétaire d'ambassade. À dégoter son patron, reprit le nain en jetant à Canalis un regard où l'insolence se noya dans le pétillement du gaz acide carbonique. Oh, j'ai assez peu de reconnaissance et assez d'intrigue pour vous monter sur les épaules. Un poète portant un avorton. Ça se voit quelquefois, et même assez souvent, dans la librairie. Allons, vous me regardez comme un avaleur d'épée. Eh, mon cher grand génie, vous êtes un homme supérieur. Oui, vous savez bien que la reconnaissance est un mot d'imbécile. On le met dans le dictionnaire, mais il n'est pas dans le cœur humain. La reconnaissance n'a de valeur qu'à certains monts, qui n'est ni le Parnasse ni le Pinde. Croyez-vous que je doive beaucoup à ma patronne pour m'avoir élevé? Mais la ville entière lui a soldé ce compte en estime, en parole, en admiration, la plus chère des monnaies. Je n'admets pas le bien dont on se constitue des rentes d'amour-propre. Les hommes font entre eux un commerce de service. Le mot reconnaissance indique un débat. Voilà tout. Quant à l'intrigue, elle est ma divinité. Comment, dit-il à un geste de Canalis, vous ne donneriez pas la faculté qui permette à un homme souple de l'emporter sur l'homme de génie, qui demande une observation constante des vices, des faiblesses de nos supérieurs et la connaissance de l'heure du berger en toute chose? Mais demandez à la diplomatie si le plus beau de tous les succès n'est pas le triomphe de la ruse sur la force. Ah, si j'étais votre secrétaire, monsieur le baron, vous seriez bientôt premier ministre parce que j'y aurais le plus puissant intérêt. Allez, tenez, voulez-vous une preuve de mes petits talents en ce genre? Oyez! Vous aimez à l'adoration, mademoiselle Modeste, et vous avez raison. L'enfant, à mon estime, c'est une vraie Parisienne. Il pousse par-ci, par-là, des Parisiennes en province. Notre Modeste est femme à lancer un homme. Elle a de ça, dit-il en donnant en l'air un tour de poignet. Vous avez un concurrent redoutable, duc. Que me devenez-vous pour lui faire quitter le Havre avant 3 jours? Achevons cette bouteille, dit le poète en remplissant le verre de Butscha. Mais vous allez me griser, dit le clerc en lampant un 9e verre de vin de champagne. Avez-vous un lit où je puisse dormir 1 heure? Mon patron est sobre comme un chameau qu'il est. Et madame Latournelle aussi. L'un et l'autre, ils auraient la dureté de me gronder. Ils auraient raison. Contre moi, qui n'en aurais plus, j'ai des actes à faire. Puis reprenant ses idées antérieures, sans transition, à la manière des gens gris, il s'écria « Eh, quelle mémoire! Oh, elle égale ma reconnaissance !»« Butscha !» s'écria le poète. « Tout à l'heure, tu te disais sans reconnaissance, tu te contredis !» Du tout, reprit le clerc. Oubliez, c'est presque toujours ce souvenir. Allez, marchez. Je suis taillé pour faire un fameux secrétaire. Et comment t'y prendrais-tu pour renvoyer le duc? Dit Canalis, charmé de voir la conversation aller d'elle-même à son but. Ça vous regarde pas? Fit le clerc en lâchant un hoquet majeur. Butscha roula sa tête sur ses épaules, et ses yeux de Germain à la Brière, de la Brière à Canalis, à la manière des gens qui sentent venir l'ivresse, veulent savoir dans quelle estime on les tient, car dans le naufrage de l'ivresse, on peut observer que l'amour-propre est le seul sentiment qui surnage. Dites donc, grand poète, vous êtes pas mal farceur? Vous me prenez donc pour un de vos lecteurs? Vous qui envoyez à Paris votre ami à Franc-Étrier pour aller chercher des renseignements sur la maison Mignon. Non, 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 je blague, tu blagues, nous blaguons. Bon, mais faites-moi l'honneur de croire que je suis assez calculateur pour toujours me donner la conscience nécessaire à mon état. En ma qualité de premier clerc de maître Latournelle, mon cœur est un carton à cadenas. Ma bouche ne livre aucun papier relatif aux clients. Oh, je sais tout, mais je ne sais rien. Et puis, ma passion est connue. Moi, j'aime Modeste, elle est mon élève, elle doit faire un beau mariage. Et j'emboiserai le duc s'il le fallait, mais... Vous épousez... Germain, le café, les liqueurs, dit Canalis. Les liqueurs, répéta Butscha. levant la main comme une fausse vierge qui veut résister à une petite séduction. « Ah, mes pauvres actes! Il y a justement un contrat de mariage. Tenez, mon second clerc est bête comme un avantage matrimonial et capable de flanquer un coup de canif dans les parafernaux de la future épouse. Il se croit bel homme parce qu'il a 5 pieds 6 pouces. Oh, un imbécile! Allez, tenez, voici de la crème de thé. Une liqueur des îles, dit Canalis. Vous que mademoiselle Modeste consulte, elle me consulte. Eh bien, croyez-vous qu'elle m'aime ? Demanda le poète. Oui, plus que le duc, répondit le nain en sortant d'une espèce de torpeur qui jouait à merveille. Elle vous aime à cause de votre désintéressement. Elle me disait que pour vous, elle était capable des plus grands sacrifices, de se passer de toilette, de ne dépenser que 1000 écus par an, d'employer sa vie à vous prouver qu'en épousant vous auriez fait une excellente affaire. Et elle est crânement... Elle soit honnête, allez, et instruite, et elle ignore de rien, cette fille-là. Ça, et 300 000 francs, dit Canalis. Oh, il y a peut-être ce que vous dites, reprit avec enthousiasme le clerc. Le papa mignon, voyez-vous, il est mignon, comme père. Aussi l'estimais-je. Mais pour bien établir sa fille unique, il se dépouillera de tout. Ce colonel est habitué par votre restauration... à rester en demi-solde. Il sera très heureux de vivre avec Dumais en 40 ans au Havre. Il donnera certainement ses 300 000 francs à la petite. Mais n'oublions pas Dumais, qui décide sa fortune à Modeste. Dumais, vous savez, est breton. Son origine est une valeur au contrat. Oh, il variera pas, et sa fortune vaudra celle de son patron. Néanmoins, comme il m'écoute au moins autant que vous, quoique je ne parle pas tant si bien, je leur ai dit, ben vous mettez trop à votre habitation, si Vilquin vous la laisse, voilà 200 000 francs qui ne rapporteront rien. Il resterait donc 100 000 francs à faire boulotter. Oh, c'est pas assez, à mon avis. Et en ce moment, le colonel et Dumais se consultent. Croyez-moi, Modeste et riche, les gens du port disent des sottises en ville. Ils sont jaloux. Mais qui donc a pareil dot dans le département ? Dit Butcha, qui leva les doigts pour compter. Oh, 200 000 francs comptant, dit-il en inclinant le pouce de sa main gauche, qu'il toucha de l'index de la droite. Aida, la nue propriété de la ville La Mignon, reprit-il en renversant l'index gauche, et de deux. Tertio, la fortune de Dumais, ajouta-t-il en couchant le doigt du milieu. Mais la petite mère Modeste est une fille d'un million. Une fois que les deux militaires seront allés demander le mot d'ordre au Père éternel. Cette naïve et brutale confidence, entremêlée de petits vers, dégrisait autant Canalis qu'elle semblait griser Butcha. Pour le clerc, jeune homme de province, évidemment, cette fortune était colossale. Il laissa tomber sa tête dans la paume de sa main droite, et, accoudé majestueusement sur la table, il clignota des yeux en se parlant à lui-même. Dans 20 ans, au train dont va le code, qui pile les fortunes avec le tibre des successions, une héritière d'un million, ce sera rare comme le désintéressement chez un usurier. Vous me direz que Modeste mangera bien 12 000 francs par an, l'intérêt de sa dot, mais elle est bien gentille. Bien gentil, bien gentil. C'est, voyez-vous, un poète, il faut des images. C'est une hermine malicieuse comme un singe. Que me disais-tu donc ? S'écria doucement Canalis en regardant la bruyère, qu'elle avait 6 millions. Ah, mon ami, dit Ernest, permets-moi de te faire observer que j'ai dû me taire. Je suis lié par un serment. Et c'est peut-être trop en dire déjà que de... Mais un serment à qui ? Mais un monsieur mignon. Comment, Ernest, toi qui sais combien la fortune m'est nécessaire. Butcha ronflait. Toi qui connais ma position et tout ce que je perdrai rue de Grenelle à me marier, tu me laisseras froidement m'enfoncer, dit Canalis en pâlissant. Mais c'est une affaire entre amis, et notre amitié, mon cher, comporte un pacte antérieur à celui que t'as demandé ce rusé provençal. Mon cher, dit Ernest, j'aime trop Modeste pour... Imbécile, mais je te la laisse, cria le poète. Ainsi rend ton serment. Me jures-tu, ta parole d'homme, d'oublier ce que je vais te dire, de te conduire avec moi comme si cette confidence ne t'avait jamais été faite, quoi qu'il arrive? Oh, je le jure, par la mémoire de ma mère. Eh bien, à Paris, M. Mignon m'a dit qu'il était bien loin d'avoir la fortune colossale dont m'ont parlé les Mongerons. L'intention du colonel est de donner 200 000 francs à sa fille. Maintenant, Melchior, le père avait-il de la défiance? Était-il sincère? Je n'ai pas à résoudre cette question. Si elle daignait me choisir, Modeste, sans dot, mais ce serait toujours ma femme. Un bleu d'une instruction épouvantée, qui a tout lu, qui sait tout, en théorie, s'écria Canalis, un geste que fit la Bruyère. Un enfant gâté, élevé dans le luxe de ses premières années, et qui s'en est sevré depuis 5 ans. Ah, mon pauvre ami, songe-y bien. Ode et code, dit Butcha en se réveillant. Vous faites dans l'ode et moi dans le code. Il n'y a qu'un c'est de différence entre nous. Or, code vient de coda, que. Vous m'avez régalé, je vous aime, allez, ne vous laissez pas faire au code. Tenez, un bon conseil vaut bien votre vin et votre crème de thé. Le père Mignon, c'est aussi une crème, la crème des honnêtes gens. Eh bien, montez à cheval. Il accompagne sa fille. Vous pouvez l'aborder franchement. Parlez-lui d'hôte, il vous répondra net. Et vous verrez le fond du sac, aussi vrai que je suis gris et que vous êtes un grand homme. Mais pas vrai. Nous quittons le moment ensemble. Je serai votre secrétaire, puisque ce petit qui me croit gris et qui rit de moi vous quitte. Allez, marchez, laissez-lui épouser la fille. Canalis se leva pour aller s'habiller. Pas un mot, il court à son suicide, dit posément à la Bruyère Butcha, froid comme Guggenheim, et qui fit à Canalis un signe familier au gamin de Paris. Adieu, mon maître, reprit le clerc, en criant à tue-tête. Vous me permettez de renarder dans le kiosque de Maman Maury. Mais vous êtes chez vous, répondit le poète. Le clerc, objet des rires des 3 domestiques de Canalis, gagna le kiosque en marchant dans les plates-bandes et les corbeilles de fleurs avec la grâce têtue des insectes qui décrivent leurs interminables zigzags quand ils essaient de sortir par une fenêtre fermée. Lorsqu'il eut grimpé dans le kiosque et que les domestiques furent rentrés, il s'assit sur un banc de bois peint et s'abîma dans les joies de son triomphe. Il venait de jouer un homme supérieur. Il venait non pas de lui arracher son masque, mais de lui en voir dénouer les cordons. Et il riait comme un auteur à sa pièce, c'est-à-dire avec le sentiment de la valeur immense de ce vis comica. Les hommes sont des toupies. Il ne s'agit que de trouver la ficelle qui s'enroule à leur torse, s'écria-t-il. Ne ferait-on pas évanouir en me disant « Mademoiselle Modeste vient de tomber de cheval et s'est cassée la jambe ».